Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En ce lundi soir, on se retrouve pour un live, la 164e émission déjà, ça passe vite. C'est un live où on va revenir évidemment sur cette trêve internationale parce qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé au niveau des clubs. Donc on va parler de cette trêve, même si il n'y avait pas grand-chose à dire, étant donné qu'on était déjà qualifié et que la seule chose qu'on pouvait espérer, c'était de faire un 10 sur 10, et cela a été fait. Donc on va pouvoir faire un bilan. On ne va pas forcément parler de cette trêve parce qu'encore une fois, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. On va plus faire un bilan de cette phase de qualification historique. Je rappelle pour le Portugal, c'est la première fois que le Portugal fait une phase de qualification aussi compétente, avec 10 victoires en 10 matchs, 36 buts marqués, seulement 2 buts encaissés. Donc voilà, c'est proche de la perfection. On va bien évidemment revenir là-dessus. Et on va aussi parler de la prolongation d'Arthur Georges pour du côté de Braga, avec justement Mathieu. Comment tu vas, Mathieu?
Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, en petit comité ce soir, mais ravi d'être là avec toi pour parler de la sélection qui, comme tu l'as dit, a fait un 10 sur 10, hein, sans faute, et il y a quand même des choses à dire malgré tout, je
Est-ce que ça te
trouve.
redonne un peu en plus envie de regarder quand même ce départ?
Bah, ça me donne envie de voir un peu ce qui va se passer pour la suite, pour les matchs amicaux de mars. Alors je t'avoue que j'ai oublié si on avait des matchs intéressants en mars,
Encore
en amical ou si c'est... Je crois que ça...
ils n'ont pas été encore annoncés les noms.
Ouais, ça n'a pas encore été annoncé. Et même pour l'Euro, c'est vrai que cette phase de qualif, elle est un peu, elle est très très bien, mais c'est vrai qu'on va en parler. Mais il y a certaines oppositions qui on aurait pu attendre. Voilà, on aurait pu attendre un groupe peut-être un peu plus difficile à certains moments pour voir un peu vraiment où est-ce que cette équipe mode Martinez peut aller. Donc, attendre l'Euro 2024, mais oui, il y a quand même quelques espérances avec ce groupe dans les mois à venir.
Oui, après c'est vrai que on va revenir, mais on va aussi donc on va parler de Braga, mais c'est vrai que ça donne déjà un peu plus envie de regarder, d'allumer sa télé, même si au début c'était compliqué. Personnellement, j'ai pas regardé ces deux matchs de la trêve où c'était quasiment des matchs amicaux pour moi qui n'ont pas beaucoup de sens, avec notamment toutes ces blessures. Mais en tout cas, oui, ça donne envie. Et le tirage au sort, je crois que c'est le 2 décembre, je crois que c'est bientôt. Donc voilà, on va voir si on a une poule un peu plus compliquée, ou bien si on sera les favoris, etc. On va revenir sur tout ça. Mais Mathieu, on va commencer par ton club, Braga. Donc lors de cette trêve, il n'y a pas eu grand-chose du côté de nos clubs, à part cette petite brouille qu'il y a eu du côté du FC Porto, et on y reviendra dans quelques semaines, voire peut-être la semaine prochaine. Il n'y a pas eu vraiment de grand-chose à rajouter. Il y a eu cette prolongation d'Arthur Georges. Mathieu, voilà, il avait été prolongé déjà la saison dernière d'un an. Non, il n'avait pas été prolongé, pardon, il n'avait pas été prolongé, justement. On avait eu un peu ce débat en off, où quand Roger Smith avait été prolongé, on s'était dit que c'était peut-être un peu trop rapide, et qu'on avait pris l'exemple de Braga, que Braga n'avait pas prolongé son entraîneur alors qu'il arrivait en fin de contrat en juin 2024, à cette fin d'année. Donc voilà, ils ont pris la décision de le prolonger. Mathieu, pour toi, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que, encore une fois, il aurait peut-être fallu attendre la fin de saison pour voir vraiment faire un bilan et pour voir si vraiment la prolongation était méritée? Ou si pour toi, c'était le bon moment, ça donne un peu de confiance, tout en non plus, parce que voilà, il a été prolongé d'un an, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça permet aussi de lui donner une certaine confiance sans non plus trop abuser au cas où ça se passe mal.
C'est exactement ça. C'est de la confiance sans avoir une confiance aveugle. Et c'est ça que je trouve bien dans ces décisions. Je la trouve un petit peu tardive, parce que pour moi, je pense qu'Arthur Georges méritait d'avoir un peu cette tranquillité sur son contrat un petit peu avant, tout de même, que sur cette prolongation qui arrive mi-novembre. C'est vrai que le début de saison a été contrasté entre certaines défaites, entre certains matchs, certaines victoires qui ont été un peu contrastées en termes de jeu, entre d'autres performances face au Real à domicile ou même face à Naples en Ligue des Champions de bonne qualité dans le jeu sans victoire. Donc ce début de saison est un peu c'est un mixte un peu d'émotions un peu bizarres quand même entre ces mauvais matchs parfois et ces victoires à la fin, même dans le temps additionnel et d'autres performances en Europe et même sur le mois d'août hein, avec cette qualif qui est certes on aurait pu espérer avoir là aussi une opposition un peu plus difficile avec l'OM par exemple en play-off et finalement tu arrives quand même à très bien t'en sortir avec 4 victoires en Europe sur le mois d'août. Donc pour moi ça il la méritait un petit peu avant. Mais je comprends le fait d'avoir aussi un peu attendu parce que et je pense que le début de saison aussi donne aussi raison à Antonio Salvador et à sa direction, dans le sens où, malgré tout, voilà, je pense que l'équipe a encore un gros potentiel et encore une marge de progression assez importante qu'il faut savoir atteindre. Et il faut pas oublier que Arthur Georges a aujourd'hui peut-être le meilleur effectif de l'histoire du club. Peut-être pas défensivement, mais d'un point de vue milieu attaque, je pense qu'on avait même parlé un peu l'année dernière et finalement, t'as eu aucun départ. L'été dernier, il y a eu le départ de Vitinha à l'hiver, mais tu n'as eu aucun départ. Tu t'es même renforcé avec des profils assez différents, assez divers, avec un investissement au milieu de terrain avec des Jean Moutinho, des Rodrigo Salazar, devant avec un Rony Lopez qui a encore, t'as encore un peu de temps avant de confirmer, mais tu as acheté Broma entièrement. Donc, tu as quand même un effectif qui est solide et donc tu attends plus. Et c'est vrai que par rapport à la saison dernière, je trouve que autant on avait l'impression d'avoir une équipe qui était très forte en championnat parce que la configuration du championnat plaisait bien à ce groupe, dans le sens où si cette équipe avait le ballon, était passé plus de temps en organisation offensive et à transiter défensivement, ça allait le faire face aux petites équipes et finalement ça l'a fait. Et Braga a fait le meilleur championnat de son histoire d'un point de vue comptable la saison dernière. Mais déjà l'année dernière, on voyait des difficultés à défendre en bloc, à contrôler toute la largeur. Sur certains plans de jeu dans certains grands matchs, alors il y a des matchs où ça s'est plutôt bien passé, on se souvient 3-0 face à Benfica, mais dans d'autres matchs où ça a été très très mal passé, comme face au Sporting à l'Alvalade deux fois la semaine dernière. Donc, malgré tout, même cette année, encore certains problèmes défensifs. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a encore une grosse marge de progression pour un groupe qui a pour moi beaucoup de qualité, et qu'on est quand même déjà au mois de novembre, et que je pense qu'on est sur un des temps de passage qui sont quand même un petit peu. On n'est pas exactement sur les temps de passage que je pense qu'on devrait être en ce début de saison. On n'est pas largué en championnat, on est encore en toute compétition. En Europe, on peut même encore se qualifier pour les teams de finale des champions, c'est dire.
Justement, pourquoi maintenant, pourquoi ce timing alors que bon, c'est pas le début de saison rêvé, il reste encore quand même une grosse partie de la saison. Est-ce que tu n'as pas peur que justement cette prolongation fasse un peu comme si c'est passé à Benfica avec une sorte de relâchement, même si c'est inconscient?
Je sais pas, je pense que malgré tout, je pense qu'Antoine Salvador a quand même apprécié le visage de l'équipe en Ligue des Champions et notamment face au Real Madrid, malgré la défaite 3-0 au Bernabéu. Je pense que c'était une défaite un petit peu sévère, même si on avait été largement dominé, mais qu'on aurait pu mettre si on met ce premier but d'Alvaro Giallo, peut-être que le match est un petit peu différent, mais je pense qu'il a aimé ce qu'il a vu en Ligue des Champions. Je pense qu'il a aimé l'union aussi la capacité d'unifier le groupe. C'est un truc qu'il faut dire aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tactique, on parle beaucoup de. Voilà, même moi, hein, je parle d'organisation défensive, que l'équipe, d'un point de vue de la compétitivité de son jeu, peut faire mieux. Mais c'est quand même un entraîneur qui a quand même très bien su fédérer autour de lui, sa première, enfin, finalement sa deuxième saison seulement en tant qu'entraîneur à ce niveau-là. Et il a quand même réussi à extrêmement bien fédérer autour de lui, à faire l'unanimité auprès de ses joueurs, à faire l'unanimité auprès de son staff. Et y a quand même une ambiance autour de l'équipe première, au sein de l'équipe, qui est quand même très très bonne. Elle était déjà très très bonne avec Carlos Carvalhal. Et là encore, y a encore à ce niveau-là, d'un point de vue animique, d'un point de vue de la confiance, d'un point de vue de la mentalité. Je veux dire même que l'équipe, d'un point de vue mental, est même plus forte que sur les saisons précédentes. J'ai rarement vu Braga parfois être aussi fort dans les dernières minutes d'un match. Hein. Généralement, quand tu avais ce genre de scénario où tu perds 1-0, 1 partout. Tu grattais pas ces 2 points ou ces 3 points, tu le faisais pas un peu à la Porto Benfica Sporting qui ont réussi à faire ces dernières saisons. Et donc déjà, il y a cette culture-là de la gagne qu'il a quand même réussi à implémenter, même si d'un point de vue du jeu, on peut encore faire mieux, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est un bon timing parce qu'il te reste quand même plus de 6 mois de saison et que globalement, l'équipe, elle est sur des bons temps de passage, mais je pense qu'elle peut faire mieux, qu'elle aurait pu faire mieux en début de saison, et c'est pour ça que je pense même que la prolongation a été un peu retardée, parce qu'on se souvient qu'Abel Ferreira, par exemple, avait été prolongé à Braga seulement après sa première saison, vraiment à la toute fin de la dernière journée, la 34e journée en 2018, après une très très belle saison en championnat comme Arthur Jolas la saison dernière. Et là, ça a mis un peu plus de temps parce qu'il y avait aussi la Ligue des Champions qui était importante dans les comptes de cette prolongation aussi à
Tu
partir
penses
du
que
mois d'août.
Salvador a attendu avec des champions pour être sûr de son groupe?
Oui, je pense aussi. Je pense qu'il l'a bien fait aussi, parce que c'est vrai que après, si tu perds la Ligue des Champions, si tu te retrouves en Europa League au mois de septembre, quel est l'état aussi de l'équipe première? je sais pas trop. Donc après, est-ce que tu as un coach qui est capable de remobiliser totalement son effectif après une potentielle désillusion au mois d'août, après avoir travaillé toute une saison pour atteindre cet objectif? C'est pas ce qui s'est passé, heureusement. Mais globalement, je pense qu'il a attendu avec des champions et des quelques premiers matchs d'ailleurs pour prendre une décision à ce niveau-là. Et voilà, et pour dire qu'il ne le prolonge finalement que d'un an, donc ça lui laisse une sorte de tranquillité. Mais c'est vrai que dans le football d'aujourd'hui, on fait quand même assez attention à tout ce qui est indemnité de départ ou indemnité de licenciement. Et malheureusement, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais je pense que ça a un peu aussi joué au fait de ne pas le prolonger de 2-3 saisons dès maintenant.
Est-ce que justement il peut avoir aussi ce sentiment de manque de confiance entre guillemets, du sens où bon il fait une première intérim où ça se passe plutôt bien, il n'est pas reconduit, on fait appel à Carvalhal, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, alors qu'il aurait pu très bien être reconduit parce qu'il a quand même emmené Braga à la troisième place devant le Sporting. Donc il y a une sorte de rétrogradation qui prend très bien. Il reprend l'équipe, donc c'est une promotion. Pour lui montrer quand même, on te fait confiance quand même, donc on te remet à la tête de l'équipe première, mais on ne te fait qu'un contrat de 2 ans ou 1 an. Et là, on te ferait juste un contrat d'1 an. Est-ce que ce n'est pas juste, tu sais, en quelque sorte, une sorte d'intérimaire, en quelque sorte, on te fait confiance, mais on a peur quand même, on a du mal à se projeter sur le long terme avec toi. Est-ce que tu penses que lui, il peut le ressentir comme ça et, ou bien, non, il prend ce qu'il y a à prendre et c'est son club et il donnera toujours tout, même si je pense pas que c'est sa mentalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de manque de confiance, entre guillemets?
Je pense qu'il le ressent. Je pense que ça, mais je pense qu'il le ressent pas que de la direction. Je pense qu'il le ressent aussi de la part des supporters. Hein. Mmh. On est malgré tout un club qui a un peu de mal à bien traiter les siens. J'allais dire, on a même Carvalhal a été par moments dans les moments difficiles de sa deuxième saison notamment, a quand même été sacrément maltraité. Et encore aujourd'hui, quand par exemple il y a eu certains mauvais résultats, la défaite face au Feliens. Il y a eu des commentaires comme quoi si Carvalhal avait cet effectif-là, on jouerait le titre cette saison. Tu vois. Ça va très très vite dans la tête des supporters. Hein, mais on n'est pas les... Et pourtant, tu vois, Carvalhal, pour moi, avait déjà un meilleur visage, tout simplement parce qu'il a eu des expériences à l'étranger, et des bonnes expériences à l'étranger, qui est entraîné en Première Ligue. Donc je pense déjà que ça lui a donné le crédit au départ. Arthur Georges, au départ, il n'a vraiment aucun crédit, dans le sens où beaucoup de gens, selon moi encore, le voyaient... Les jeunes le voyaient comme l'entraîneur qui était dans les sélections depuis des années, enfin dans les équipes de formation depuis des années, qui faisait pourtant du plutôt bon travail. Mais est-ce que réellement les gens regardent ça? Est-ce que vraiment les gens regardent l'équipe B ou voir les U19? Pas sûr. Et les plus anciens avaient l'image, certes, d'un entraîneur qui, surtout du défenseur central des années 90, enfin des années 90, début des années 2000, assez rugueux, assez fort, et qui potentiellement n'avait jamais eu d'expérience à l'étranger. Donc, qu'est-ce qui, lui, va nous faire passer un cap, finalement, étant donné qu'il est un peu comme nous tous et qu'il n'aurait pas ce lien de compétences. En tout cas, moi, c'est ce que personnellement, je ressens au niveau des réseaux sociaux. Ce qu'il a déjà, communiqué, tu vois, dans une conférence qu'il avait fait l'année dernière. Je ne sais plus le nom de la conférence, mais il parlait de la relation aussi qu'il avait eue avec les réseaux sociaux sur le fait qu'il trouvait que dans les moments difficiles, beaucoup de gens avaient été très injustes avec lui et avec son staff. Et c'est ce que je pense aussi. Donc ouais, je pense qu'il a tout, malgré tout, ça vient un peu de tous les côtés. C'est pas un environnement très facile pour les siens et même pour les jeunes de la formation. Tu vois, Rodrigo Gomez a dû finalement un peu partir à Estoril et tout d'un coup arrive finalement à se remettre un peu dans le bain. Et tout le monde veut le revoir à Braga. Alors que l'année dernière, il s'est fait, pour un gamin de 19 ans déjà, l'année dernière, ouais, il s'est fait trucider parce que les performances n'étaient pas au bon niveau, alors que le gamin est né à Villarreal d'à côté. Donc les supporters de Braga ne sont pas les plus tolérants avec les siens, et c'est quelque chose qui est un peu dommage, que ce soit pour les plus vieux, Arthur Georges, ou les plus jeunes comme Rodrigo Gomez.
Est-ce que tu penses, comme Daniel, qu'il pourrait être menacé en cas de 4e place à la fin de saison?
Ça dépend comment tu obtiens la 4e place, hein. Ça dépend si tu arrives à te battre pour le podium jusqu'à la fin de la saison. Si tu as 10-15 points de retard sur le troisième, je pense que ça peut jouer. Si tu as 2-3 points de retard et que finalement les autres ont été meilleurs que toi, bon, ça dépend aussi des confrontations directes, si ça s'est joué. Ça dépend de comment ça se joue. Je pense que ça aurait une influence. Après 4e, 3e cette année, ce n'est pas que ça ait une grande différence, mais cette année, la 3e place, c'est l'Europa League. Si les deux premiers sont... un des deux premiers gagne la Coupe du Portugal. Si tu finis 4e, tu gagnes la Coupe du Portugal, t'es en Europa League. Donc, il y a plusieurs scénarios en jeu, mais je pense que c'est plutôt la manière de comment tu finis 4e à la fin de la saison.
Et surtout aussi l'image que tu peux montrer en Europe. C'est vrai que,
Bien
comme on
sûr.
l'a pu le dire, c'est vrai que le fait de montrer une belle image en Ligue des Champions, je pense que ça a été quand même un gros point positif pour lui. Parce que si tu fais cette Ligue des Champions, mais que tu te prends des raclées à tous les matchs, je ne suis pas sûr qu'il y ait une prolongation à la fin. Et vraiment, oui, je pense qu'il voilà, mérite cette prolongation. Il a montré de très bonnes choses, franchement, contre le Real, contre Naples. On ne pouvait pas s'attendre, enfin, on pouvait s'attendre. On savait que Braga allait du moins. Faire des bonnes prestations, mais à ce point-là, quand même, à regarder dans les yeux le Real Madrid, qui est la plus grande équipe du monde, le plus grand club du monde, c'est quand même quelque chose d'assez flatteur et d'assez révélateur sur le travail d'Arthur Georges. Et ça, je pense que c'est à mettre à son crédit. Il a gagné, pour moi en tout cas, énormément de crédit sur cette saison et j'espère qu'il continuera au sein de ce club parce qu'il fait quand même du très bon travail et puis il représente Braga. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un entraîneur qui aime son club, tout simplement, et qui n'est pas là juste là pour. Comment dire, pour faire son expérience et partir sur d'autres clubs plus tard. Donc voilà, c'est très intéressant pour ça. Donc voilà, content de cette prolongation. On espère que ça va continuer pour vous. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ce thème-là?
Ouais, juste un petit truc, mais tu l'as bien dit sur Ligue des Champions, c'est quelque chose qu'on lui avait un peu reproché la saison dernière, c'est les performances européennes et certaines difficultés dans la préparation de certains matchs, de certains grands matchs. Et cette année, malgré les défaites face au Real Madrid et même face à Naples, j'ai trouvé que l'équipe était plutôt bien préparée. Après, tout le monde n'était pas d'accord, mais personnellement, j'ai trouvé que face à une telle opposition, il y a eu des petits ajustements, mais que l'équipe n'avait pas perdu totalement son identité à l'approche de ces rencontres. Et donc, voilà, je trouve que on voit des points d'amélioration pour un entraîneur qui est finalement peut-être 51 ans, 52 ans aujourd'hui, même s'il est déjà grand-père de 3 petits-enfants. Mais globalement, il est très jeune à ce niveau-là, c'est sa deuxième année professionnelle. Je pense, quand on voit ce qu'on voit depuis le début, il y a des choses encore améliorées. Comme j'ai dit, il y a pas mal de choses d'un point de vue de certains moments. Tu vois, même un truc, tu vois, par exemple, les coups de pied arrêtés, je trouve qu'on est bien moins bon que la saison dernière. Et c'est des petits trucs comme ça qui font que d'un point de vue de la compétitivité de l'équipe, je pense qu'on peut faire mieux. Mais vu ce qu'on a vu l'année dernière, on peut laisser encore largement un peu plus de temps pour voir une progression. Et sur certains aspects, comme on l'a dit, depuis le début de la saison, on voit une certaine progression. Donc pour moi, cette prolongation est tout à fait naturelle.
Oui, j'ai sorti le maillot. J'ai sorti le maillot parce qu'on va parler de la sélection. Qui dit sélection, donc on sort le maillot et on sort le plus beau maillot de l'histoire de la sélection.
Quelle transition!
Donc sans transition, voilà, on passe
Dans quelle
directement.
transition?
Quelle transition, ouais, aussi. Donc voilà, un sans faute pour cette phase de qualification qui est historique, encore une fois, comme j'ai pu le dire lors de l'introduction. 10 matchs, 10 victoires, ça n'a jamais été réalisé avec le Portugal. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ce genre de phase de qualification, même si personnellement, du coup, ça m'a enlevé un peu d'adrénaline et je n'ai pas regardé les deux derniers matchs, encore une fois. Ça m'a fait bizarre parce que j'avais l'habitude depuis que je suis tout gamin de regarder chaque match de la sélection parce qu'il y avait au moins de l'intérêt et du suspense. Là, il n'y avait vraiment rien à, comment dire, à en tirer de ce rassemblement. Et donc voilà, mais ça fait plaisir. Et pour ça, il faut mettre du crédit à Roberto Martinez qui, je crois, n'a pas encore perdu une seule fois en phase de qualification pour le championnat d'Europe. Et ça, c'est quand même c'est à mettre à son crédit. Et ça montre quand même qu'il est compétent. Alors voilà, ce n'est pas le meilleur de sélectionneurs, ce n'est pas le meilleur entraîneur au monde. Mais ça montre quand même qu'on a passé un cap par rapport à Fernando Santos. Donc voilà, mais c'est du Roberto Martinez. On le savait. On savait que sur ce genre de confrontation où les adversaires étaient plus faibles, il allait répondre présent, il allait faire bien jouer son équipe. Il allait avoir des résultats. C'est pour ça que la Belgique était première du classement FIFA. Par contre, voilà, c'est pas vraiment là où on l'attend aussi. C'est vraiment, on l'attendra. Si à la fin on sort en 8e, ça n'aurait pas servi à grand-chose, Mathieu. Avec cette phase de qualification, est-ce que pour toi, la sélection fait partie des favoris? Alors, je pense qu'on a toute une équipe en tête où vraiment c'est la favorite. C'est le plus grand pays en ce moment en Europe, c'est l'équipe de France. Je pense qu'il reste quand même au-dessus de tout le monde. Mais est-ce que le Portugal est un cran en-dessus en dessous avec l'Angleterre? Moi, je ne vois que trois équipes, voilà, la France, l'Angleterre et le Portugal, parce que le reste, pour moi, hein, c'est pas encore n'ont pas montré grand-chose durant ces qualifications, notamment l'Espagne, l'Italie ou autres. En tout cas, pour moi, le Portugal est l'équipe qui arrive avec le plus de certitude avec l'Angleterre et la France. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. On va peut-être même se faire éliminer en 8e. Peut-être que c'est même l'Espagne, l'Italie ou la Belgique qui gagneront cet euro. Mais en tout cas, pour une fois depuis tant d'années, on arrive avec des certitudes et des choses qui nous donnent envie d'être optimistes. Pour une fois, et ça fait énormément d'années, enfin, depuis qu'on a créé Golasso, c'est très rare, ça n'a jamais arrivé, le fait qu'on arrive
Jamais.
dans une compétition internationale avec avec cette confiance.
Ouais, totalement. Alors, j'allais te dire, si on se met juste dans comme observateur, pour moi, ce serait bête de ne pas mettre le Portugal parmi les favoris. Parce qu'il y a une qualification qui est excellente, parce qu'on ne peut pas faire mieux. Alors après, on pourrait nous dire, oui, le groupe n'était pas assez relevé ou était moins relevé que certains groupes qu'on a lu les années précédentes. Et c'est vrai, je pense que bien évidemment, le mérite à la Slovaquie d'avoir fini deuxième dans ce groupe. Mais pour moi, la Slovaquie n'était pas du niveau de la Serbie qu'on a affrontée il y a quelques années, que même l'Ukraine, deux équipes qui nous avaient mis à l'amende et qui nous avaient envoyé une en barrage et l'autre à la deuxième place de l'Euro. Et heureusement que la deuxième place était qualificative directement. En 2019, donc il y a tout 5 ans déjà, enfin 4-5 ans maintenant. Donc voilà, mais globalement, tu peux faire mieux. Donc, on va pas. si on n'avait pas fait 10 sur 10 ou qu'on aurait fait un 8 sur 10 avec deux matchs nuls, on aurait pu faire mieux. Mais là, on ne peut pas faire mieux. Donc, bravo à l'équipe. C'est jamais facile de faire ce qu'ils ont fait sur 10 matchs. On parle quand même de quasiment finalement d'un tiers d'une saison à peu près normale en championnat. Donc, d'avoir eu cette régularité, d'avoir encaissé que deux buts et dont ces deux buts sur un seul et même match. Donc, bravo à l'équipe. Et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on en reparlera, mais je pense qu'on a vu quand même en termes de jeu, en termes d'idées, d'un point de vue des positionnements, d'un point de vue de certains choix qui étaient assez intéressants. Et donc bravo. Donc pour moi, oui, l'observateur te dirait, voilà, je pense que oui, on fait partie du lot des favoris, avec un peu plus de certitude que d'autres équipes en Europe qui pourraient aussi faire partie de ce lot. Maintenant, le supporter te dira que j'ai du mal à m'employer ce mot parce que j'étais tellement déçu avec cette équipe depuis quelques années que je veux bien entendre qu'on est peut-être plus fort, un peu plus fort que l'Espagne, donc un peu plus de certitude que l'Espagne, que l'Allemagne qui sont des... Enfin, l'Espagne, d'un point de vue des performances, est toujours aussi là, mais l'Allemagne est en difficulté. Le problème, c'est que je suis le foot depuis... Je suis la sélection depuis quasiment 20 ans et j'ai jamais vu le Portugal battre l'Allemagne, tu vois. Donc, même une Allemagne faible, je peux te dire qu'on peut... Surtout en Allemagne, on n'a pas beaucoup de chance. Enfin, c'est pour dire que cette équipe-là, que ce soit dans les compétitions internationales ou que ce soit dans les grandes rencontres, même en amical qu'on a eu face à l'Espagne il y a quelques années, ou en Ligue des Nations, on a quand même été souvent très très déçus par ce groupe-là. Le sélectionneur a changé, mais les joueurs et les performances de ces nombreux joueurs qui sont encore aujourd'hui dans ces grands matchs-là et dans ces grandes compétitions, à part un peu à la Coupe du Monde 2022 où c'était pour certains un peu mieux, nous ont quand même déçus. Donc, je partirais avec certaines confiances, mais sans être d'un optimisme exceptionnel à l'approche d'un euro, vu les dernières prestations et à quel point ils nous ont quand même déçus sur ces dernières compétitions internationales.
Oui, je pense qu'il n'y a personne ici qui peut dire comme quoi on va gagner l'euro avec certitude. Enfin, il n'y a pas de certitude dans le football, mais je pense qu'il n'y a personne qui peut nous dire quand on est le grand favori. Non, je pense qu'au moins on est dans un peloton de tête où on est les mieux armés pour remporter cet euro. Alors, après, évidemment, il y a toute cette un peu ce passé qui fait, comme tu as dit Mathieu, qui nous rend pessimiste, mais moi pour une fois j'ai envie d'être optimiste. Alors encore une fois, je dis pas qu'on va aller en finale, qu'on va gagner, mais je pense que pour une fois on peut arriver à ce taux avec des certitudes et le fait de pouvoir de montrer des belles choses. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas montré de belles choses lors d'une compétition internationale, parce que même l'Euro 2016 au final on la gagne. Mais bon, pour certains observateurs, on était dégueulasse. Et donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on nous affronte et qu'on nous redoute. Et je pense que, encore une fois, même si on est une poule très, très, très facile, on ne va pas se mentir, je pense qu'aujourd'hui, si une équipe nous affronte, elle nous redoute. Et maintenant, voilà, c'est vrai que j'attends de voir. Bon, les matchs amicaux au mois de mars n'auront pas non plus de signification, parce que ça reste que des matchs amicaux. Mais en fait, j'ai peur que lors du premier match de phase de poule, si on affronte une grosse équipe et qu'on retombe dans nos travers, et forcément tout ce qu'on aura dit aujourd'hui sera à mettre à la poubelle, parce que ça nous montrera en fait que dès qu'on affronte une top équipe, on est mis en difficulté. Donc voilà, ça c'est le point d'interrogation, c'est le gros point d'interrogation qu'on peut émettre. Mais je suis plus confiant qu'il y a un an et demi, enfin qu'il y a un an tout court. Donc ça, pour ça, pour moi, ça fait plaisir. Oui, Mathieu, après, on va parler aussi du plan de jeu. Le but n'est pas de revenir sur cette trêve internationale, parce qu'encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire, mais sur le plan de jeu, alors, il n'y a pas vraiment un 11 type qui se dégage, parce qu'on a vu beaucoup de modifications, des joueurs que, voilà, quand tu joues les 3-4 jours, il y a un certain turnover qui se met en place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un plan de jeu. On a un dispositif tactique qui est mis en place avec ballon et sans ballon. Ça, ça fait plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas connu ça non plus. On a les cinq couloirs qui sont occupés. On a des joueurs qui sont bien positionnés. Alors, c'est assez fou de dire ça en 2023, mais ce n'était pas le cas aussi il y a un an. On a un modèle de jeu. Alors, ce n'est pas toujours flamboyant. Contre l'Islande au match aller, c'était catastrophique. Contre la Slovaquie au match aller, c'était catastrophique. Mais en tout cas, on a une idée de jeu, Mathieu. Et ça, c'est pour commencer peut-être la chose la plus importante.
Ouais, totalement. Et même tu vois, sur le système, moi j'étais très surpris quand même, surpris positivement. Alors après, on parlera peut-être de ces listes hein, qui sont peut-être le point noir de son début de mandat. Mais en tout cas, d'un point de vue du jeu et d'un point de vue des compositions, on sent quand même quelqu'un qui est un peu plus dans l'air du temps et qui, même, j'ai envie de te dire, au début était sur sa lignée qu'il avait un peu avec la Belgique, de ce 3-4-3 assez, assez rigide. Alors plutôt, les joueurs étaient plutôt bien positionnés pour un jeu de position. Et il ressemble un peu à ce que finalement fait Ruben Amorim du côté du Sporting, mais il a finalement très vite évolué en lâchant un peu ce troisième central naturel, et a commencé à essayer de construire à trois, mais avec un des milieux défensifs, ou avec un des milieux qui revient, ou avec un des latéraux, et d'avoir quand même déjà quelque chose de beaucoup plus fluide positionnellement, ce qui était naturel au regard des nombreux profils que tu as dans ton équipe. Hein. C'est vrai que tu prends Berardo, il peut jouer sur le côté, il peut jouer dans les 10, il peut jouer en 8. Bruno, il peut jouer en 10, il peut jouer en 8. Hugo Jota, il peut jouer sur tous les coups, enfin, à droite, à gauche, dans l'axe. Cancelo, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en tant que latéraux, il peut jouer comme troisième central. T'as trop de joueurs avec des profils qui font qu'ils peuvent occuper plusieurs zones sur le terrain et de manière assez... Enfin, avec un niveau de compétence... plus ou moins, enfin, plutôt assez bon, très bon s'ils sont dans leur meilleure zone, et bon quand ils sont un peu éloignés de leur zone de prédilection, que voilà, on s'attendait à ce changement naturel. Donc j'étais assez surpris que, non, je crois que c'est déjà des juin qui commencent un peu à faire ça, septembre sûr, ouais. Et on avait déjà donc une équipe qui était déjà, voilà, avec un peu asymétrique, avec qui essaie de valoriser un peu plus tous les profils, donc essayer de bien valoriser Bruno Fernandes. En mettant une bonne condition, avec un Rafael Leao par exemple bien excentré sur le couloir gauche, et avec une certaine liberté à Cancelo qui peut encore mieux faire, mais ça sera un très éternel débat. Et donc voilà, on a vu des bonnes choses, on a vu des bonnes performances individuelles comme Bruno Fernandes, d'autres performances individuelles qui peuvent être meilleures comme Bernardo Silva qui, je trouve, est certes un peu décevant sur presque depuis un an finalement avec la sélection. Et donc on est sur un entraîneur qui est resté sur ses idées d'une volonté de domination de l'adversaire, une volonté d'être très souvent dans le camp adverse, bon, les adversaires te permettaient aussi ça, et d'être finalement très fort en transition défensive, d'encaisser très peu d'occasions et d'encaisser finalement ces deux buts sur toute la campagne. Finalement, on a eu beaucoup de difficultés. On a eu quelques difficultés à marquer des buts sur certains matchs, notamment face à la Slovaquie, face à l'Islande, mais on a eu beaucoup de facilité à défendre toutes ces équipes-là. Donc peut-être un peu face à la Slovaquie, ces deux buts-là, qui est un peu, et même il y en a, c'est des beaux buts, mais qui sont hors de la surface de réparation, donc ils sont pas totalement chanceux, mais qui ont une certaine réussite. Donc ouais, on part quand même avec un entraîneur un sélectionneur qui a déjà des meilleures idées, des idées qui vont quand même assez bien avec cet effectif et qui a une ligne directrice. C'est ça qui est un vrai changement et qui malgré tout fait quand même plaisir, parce que c'est vrai qu'on l'attendait depuis pas mal d'années.
C'est vrai qu'il y a aussi cette intégration, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Si on affronte une grosse équipe, comment on va gérer nos moments où il faudra défendre bas, très proche de nos buts, est-ce qu'on sera capable de subir des temps faibles? Ça, voilà, ça on ne sait pas, parce qu'on a affronté que des équipes très très faibles, on ne va pas se mentir, et je ne sais pas encore comment on peut réagir face à ce genre de moment où voilà, il faudra subir, on va nous mettre une énorme pression, il faudra défendre proche de nos buts. Ça, voilà, est-ce que Roberto Martinez va être capable de gérer ce genre de choses? On ne sait pas. Et aussi l'interrogation de Nuno Mendes, il n'a quasiment pas été là sur la phase de qualification. Donc est-ce qu'il va être rappelé? Déjà, ça c'est un point d'interrogation, parce qu'au final, s'il n'a pas été là, il n'a pas pu le tester. Et surtout, s'il est là, où est-ce qu'il va jouer? Parce que quand on sait sur le modèle de jeu de Roberto Martinez, où tu fais du 3-4-3 avec ballon, où il utilise un ailier vraiment en tant que piston, donc qui est Léon, et un latéral, un autre piston qui est souvent Dalot ou Cancelo, Je le vois pas. Enfin, je vois pas comment il peut faire jouer les deux ensemble, à moins de mettre Nuno Mendes défenseur axe gauche, ça me semble quand même assez improbable. Ou bien de mettre Léon tout simplement ailier intérieur, mais on sait que c'est pas là où il sera le meilleur. On l'a vu au Milan AC, il a vraiment encore des difficultés de jouer à l'intérieur du jeu. Mais dans ce système de jeu où il privilégie un ailier en piston et un autre latéral piston, voilà. À moins qu'il mette pareil ailier droit, enfin un piston droit Léon. Je ne vois pas comment les deux peuvent jouer ensemble. Après, ce sera à Roberto Martinez de trouver le meilleur schéma possible pour associer les deux, parce que ce serait dommage de se passer de ce tandem-là. Mais en tout cas, là, actuellement, bah, on n'a jamais pu le voir, et c'est ce qui est dommage. Donc, on espère le voir au moins au mois de mars bah, c'est ce qui rejoint Dani Fernandez. Je pense que oui, je pense qu'ils seront en concurrence, comme Pedro Neto sera en concurrence avec les deux. Est-ce que Pedro Neto sera appelé aussi parce qu'il ne va pas prendre 50 000 joueurs capables de manger la ligne? Je pense qu'il en parlera 2-3 maximum. Donc voilà, il y a plein d'interrogations, surtout qu'il y aura une liste de 23 joueurs et non pas 26 cette fois-ci. Donc il y aura beaucoup de choix qui seront à faire. J'ai vu qu'il y avait un doute sur Pep. Pour moi, Pep, il sera. Hein, à partir du moment où c'est un cadre de l'équipe, on sait à quel point Roberto Martinez ne se fâche pas avec les cadres. Même si, encore une fois, il a pas été là aussi sur les phases de qualification. Je ne vois pas Roberto Martinez se passer de Pep, même si. Bah, même s'il n'a pas été là et que bah, si on parle de mérite, je ne sais pas s'il mérite d'être là, mais bon, ça reste Pep, ça reste un cadre du vestiaire. Donc voilà, donc, y a pas mal d'interrogations, Mathieu, sur le mois de mars qui sera assez déterminant sur la suite de la sélection.
Ouais, et c'est vrai que sur les blessures, il n'a pas été épargné non plus hein, pour
Ouais.
tous ses tests. Et bon, c'est vrai que Nuno Mendes n'est plus en sélection depuis plusieurs mois maintenant, à cause de ses blessures à répétition. Et j'allais dire, s'il est appelé, c'est déjà bien parce que actuellement, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui font que Nuno Mendes mérite d'être titulaire, enfin mérite de chambouler toute ton organisation, tout ton travail depuis plusieurs mois pour mettre Nuno Mendes qui actuellement ne joue pas, quoi. Donc après, il joue pas parce qu'il est blessé, mais après, il y a un temps, il est quand même blessé très souvent. C'est des longues blessures en plus ces derniers temps. Donc, pour moi, il faut encore au PSG qui montre un certain niveau aussi pour pouvoir. Je pense semer une graine dans la tête de Roberto Martinez pour changer certaines choses. Aujourd'hui, je pense que c'est pas encore totalement le cas. Il va falloir que Nuno Mendes montre aussi en club. C'est vrai, comme tu as dit, t'as Pepe qui était blessé, t'as Rafael Guerreiro qui était blessé, qui était appelé puis re-blessé. Donc, t'as eu pas mal de ce genre de choix, des choses que tu peux pas tester, parce qu'encore une fois, c'est des joueurs qui te proposent, notamment Guerreiro, qui te proposent beaucoup de choses en termes de positionnement, en termes d'occupation de certaines zones. Donc, t'aurais pu encore créer encore d'autres choses avec lui. Donc, il a eu quand même ce petit bémol-là au niveau de la préparation de ces différentes rencontres depuis qu'il est arrivé. Et oui, j'ai envie de dire, peut-être que certaines personnes pensent qu'on est un peu, voilà, que c'est le mois de mars et on aura des matchs amicaux. Moi, j'ai envie de rappeler, alors ça remonte un petit peu, hein, mais en 2018, enfin, quand on se qualifie en 2017, on fait un quasi sans faute pour la Coupe du Monde 2018, dans un groupe où le deuxième finissait en barragiste. On perd le premier match face à la Suisse et on gagne tous les autres matchs, dont le dernier match face à la Suisse. Et on était plutôt confiant avec le 4-4-2 de Fernando Santos, plutôt tranquille. On s'est dit, bon, on ne gagnera peut-être pas la Coupe du Monde, mais au moins on avait une équipe à peu près cohérente qui était sur la ligne de la confiance de son Euro 2016. Et dès le mois de mars, il y a eu ce match, il me semble, face aux Pays-Bas, qu'on est absolument exécrable, ou Cancelo prend un carton rouge, si je ne me trompe pas, n'est pas adapté pour la Coupe du Monde. Et j'ai envie de dire, c'était un peu le début finalement d'une équipe qui a commencé à beaucoup douter de ses forces et à beaucoup douter de ses
Ouais, c'est
capacités.
le moment où il met André Silva Ronaldo pendant toutes les qualifs et après il met Guedes Ronaldo.
Guedes, Ronaldo, Bruno Fernandes à la Coupe du Monde directement.
Je sais pas pourquoi.
Donc, je ne vais pas te cacher que si on a un sélectionneur qui reste à peu près sur le travail, après, s'il y a des vraies méformes, ce serait normal qu'il y ait certains joueurs qui sortent du 11, mais si on resterait sur un travail. Qu'on voit depuis le début, au moins au niveau du jeu, au niveau des compositions, et qu'on arrive comme ça à peu près à l'euro avec ces certitudes-là, on va pas se plaindre vu comment on est arrivé avec peu de certitudes sur les dernières compétitions, ces dernières années, quoi. Enfin, finalement, sur les 3 dernières compétitions. Hein.
Alors je dis pas qu'il y a 11 types qui se dégagent, mais tu as des profils en fait, et des profils qui se dégagent avec un placement différent. Là, tu sais que bah, tu vas partir à 3 derrière avec bah, sûrement Antonio Silva, Rubén Dias, Danilo ou Ignacio. Tu sais que bah, ton couloir gauche il sera animé par Léon ou Pedro Neto, tu sais que ton couloir droit, ce sera sûrement Dalot, tu sais qu'au milieu, tu auras sûrement Palinha, Cancelo, Bernardo, Bruno Fernandes, tu sais que ton demi-espace droit sera animé par Bernardo, tu sais que ton demi-espace gauche sera animé par Bruno, et tu sais que devant, bah, tu auras Ronaldo. Ça répond du coup à la question de Daniel Fernandes qui nous pose la question si Ronaldo partira titulaire. À partir du moment où il est parti titulaire sur la majorité des matchs lors de la phase de qualification, il sera titulaire à 100% et il jouera 90 minutes, ne t'inquiète pas pour ça. Donc voilà, mais voilà, en fait, tu as plusieurs joueurs, tu as différents profils qui se dégagent. Alors, pas dans 11 types, mais tu sais, voilà, tu sais ce qu'il veut mettre en place, tu sais les dynamiques qu'il veut mettre en place, tu sais quel joueur il va utiliser et pour quel profil et pourquoi. Et à partir de là, oui, il faut travailler dessus et ne pas arriver au mois de mars et nous mettre un Nuno Mendes piston gauche. Et qu'est-ce que tu fais de Raphaël Léao, alors que même s'il n'a pas été exceptionnel, encore une fois, ça on est tous d'accord qu'il n'a pas montré encore grand-chose en sélection, bah, ça va être compliqué de enfin, vraiment que Nuno Mendes prouve, comme tu dis, de mériter sa place et pour vraiment sauter Léao, qui reste quand même l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Donc ça va être très compliqué. Pour Nuno Mendes et de toute façon bah, tant mieux parce que les places sont chères. Encore une fois, même pour faire la liste de 23, ça va être très très compliqué. J'aimerais pas être dans le crâne de Roberto Martinez. Je pense qu'il va passer de scène lui, mais voilà, ça montre toute la richesse de l'effectif et ça c'est que bénéfique pour le Portugal et on espère que ça va continuer comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on est intransigeant avec cette sélection, avec les sélectionneurs, parce que quand on a un tel effectif, on est obligé de montrer des belles choses. Et c'est pour ça aussi qu'on est très critique avec le sélectionneur, qu'on voit qu'il préfère appeler des joueurs en fonction de l'agent, alors qu'au final, t'as pas besoin de ça. T'as tellement d'éléments, t'as tellement de qualités que t'es pas obligé d'attendre qu'il parte d'un club ou qu'il ait cet agent pour l'appeler. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, ça va être très intéressant à suivre ce mois de mars. Je regarde s'il y a des questions. Bah, on les a déjà énoncées. Vous souhaitez un groupe comment? Perso, un groupe avec un vrai niveau en face, parce que pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Alors, personnellement, moi, je m'en fous. Enfin, si on peut avoir un groupe faible et avoir un sale tirage jusqu'en finale, je prends. Ce que je veux, c'est que le portier est le plus impossible. Alors, de toute façon, le tirage, pour moi, c'est que du papier. Le plus important, c'est le terrain. On a eu déjà plusieurs fois des poules de la mort et on s'est qualifié. On a eu des poules très simples, on a galéré. Je me rappellerai en Coupe du Monde 2018, où on a fallu un temps. Bon, ça s'est joué à un pénalty quand même de l'Iran pour qu'on se fasse éliminer. Donc, pour moi, les poules ne veulent rien dire. C'est un tirage au sort, c'est un bout de papier. C'est le terrain qui répondra. Donc, je n'ai pas de préférence. Juste que le Portugal soit meilleur sur l'ensemble des matchs, que le Portugal nous rende fiers, que le Portugal joue comme une grosse équipe. Juste ça, moi, ça me suffit. Et même si on se fait éliminer en 8e, je ne sais pas, par la France ou par l'Angleterre, mais qu'on sort avec les honneurs, bon, je ne serais pas content. À éliminer en 8e, je serais assez... il n'y a aucune excuse. Mais je veux qu'au moins qu'en phase de poule, qu'on montre un tout autre visage qu'on montre depuis des années. Mathieu, est-ce que tu as un avis sur ça?
Ouais, sur les groupes, je t'avoue que je n'ai pas trop d'avis. Je me dis quand même que avoir un groupe assez difficile, enfin, difficile, ou avoir quelques équipes d'un très bon niveau dès le début peut sans
Non.
avoir en fait la pression du bah, si tu perds, tu es déjà éliminé dès les huitièmes,
C'est
ça peut
ça.
être bénéfique pour une équipe qui a pas eu encore ce genre d'opposition.
La
Donc,
quatrième place, forcément, c'est déjà un peu plus rassurant.
et t'as cette histoire de troisième place, donc. Non, non, j'ai envie de. Enfin, après, ça peut être paradoxal, mais j'ai envie de voir cette équipe-là face à des meilleures équipes en Europe. Hein. Alors, est-ce que c'est forcément la France ou l'Angleterre? Peut-être oui, mais ça peut être aussi l'Espagne, de revoir un peu l'Espagne qu'on a eu beaucoup de mal à. Enfin, entre guillemets, qu'on dénigre un peu par rapport à ce manque générationnel, mais globalement, on ne les bat jamais. Et eux nous battent à Braga pour la Ligue des Nations il y a 2 ans. Donc, non, c'était l'année dernière. Oui, 2 ans peut-être. Donc, voilà. Donc, j'ai même ces équipes-là, j'ai envie de voir comment ce groupe-là peut se comporter sans être trop pessimiste. Hein. Je suis pessimiste un peu au niveau de l'historique qu'on a face à certaines nations, mais optimiste dans le sens où, enfin, optimiste dans le sens où on veut voir un peu maintenant à quoi ce groupe-là et ce travail de Roberto Martinez peut nous amener. Donc, voilà, ne pas avoir forcément la pression de la défaite en phase de groupe, enfin de la défaite éliminatoire directement. Et avoir des nations importantes pour bien se jauger dès les phases de groupe ne me dérangerait pas totalement.
Est-ce que ce ne serait pas aussi une possibilité de te mettre dans le rouge rapidement, comme on a pu le voir à l'Euro 2021, où au final, tu as la France, tu as l'Allemagne, tu as l'Hongrie qui était très compétente à cette époque aussi, et tu arrives face à la Belgique, tu es déjà cuit, enfin, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus rien pour battre cette Belgique qui était immonde, coachée par Roberto Martinez. et tu te dis, bah, en fait, t'as puisé tout ce que t'avais à puiser pour finir troisième de ta poule.
Ouais,
et t'arrives en huitième et t'es flingué, quoi, en fait.
Je te dirais qu'on n'était pas non plus très très bien préparé vu le match qu'on faisait face à l'Allemagne à Munich cette année-là. Donc, non, je suis d'accord, on n'est peut-être pas obligé de taper la France et l'Allemagne en phase de groupe, mais d'avoir une de ces équipes-là dans notre poule, et même une équipe comme la Hongrie qui est toujours aussi qui est toujours compétitive, hein, qui sort encore une très belle phase de qualification pour aller à l'Euro, ce genre d'équipes-là peuvent être intéressantes pour se jauger dès les phases de groupe.
D'ailleurs, j'avais vu comme quoi c'était un petit hold-up que l'Italie gagne cette coupe. Non, je pense que l'Italie mérite entièrement ça, le fait de gagner le championnat d'Europe. D'ailleurs, pour moi, c'était l'un des favoris quand, dès le début, quand tu avais regardé un peu leur phase de qualification et leur style de jeu, j'étais pas du tout étonné qu'ils gagnent le championnat d'Europe. Et justement, je trouve qu'ils auraient dû s'appuyer dessus. Je ne sais pas pourquoi l'Italie a sombré aussi rapidement alors qu'ils avaient un superbe style de jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire de choses sur la sélection, Mathieu? Un petit mot sur les cadres qui ont quand même répondu présent. Ronaldo, qui malgré des matchs parfois non aboutis comme la Slovaquie ou l'Islande, a fait une phase de qualification plutôt correcte pour son âge et pour le niveau auquel il évolue depuis maintenant un an pile poil.
Oui, après. Il suffit de reprendre un peu les émissions pour avoir mon avis et notre avis sur le cas CR7. Bon, maintenant, il est en sélection, il est encore en sélection, ce qui, je trouve, bon, elle est finalement normal. Aussi, vu de la concurrence, hein, j'écoutais Nico Villas hier par inadvertant sur RMC. Il me disait, mais oui, mais vous voulez mettre qui aujourd'hui? Et c'est vrai qu'il n'a pas totalement tort. Hein. Et on veut... Oui, on pourrait mettre dans un monde un peu football manager où tu n'as pas la pression des cadres. Tu peux mettre Jota en neuf et essayer de créer quelque chose tactiquement avec un joueur hyper assez quand même assez intelligent dans l'occupation des espaces, dans ses appels en profondeur pour libérer des espaces pour ses partenaires. Donc oui, mais globalement on n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde où Cristiano Ronaldo est encore un joueur de foot professionnel et un joueur de foot de la sélection, donc il sera titulaire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et après, je viens de dire, Jota, c'est presque, enfin, c'est pas totalement une adaptation parce que je pense que c'est son meilleur poste aujourd'hui. Mais ceux qu'on considère vraiment comme les neufs aux portugais de bon niveau pour la sélection, bah aujourd'hui c'est quand même compliqué. Hein. Gonçalo Ramos, c'est très compliqué au Paris Saint-Germain aujourd'hui. André Silva, il est à la Real Sociedad, mais est-ce que quelqu'un l'a vraiment vu à San Sebastián? Je ne sais pas. Vraiment. Et Vitinha, ouais, à l'OM, c'est aussi extrêmement compliqué du côté de la Canebière.
C'est Jota qui joue en pointe. Ça, pour moi, c'est le 9 aujourd'hui le plus.
Ouais, et que tu gardes dans le groupe. Voilà. Mais aujourd'hui, dans ce monde-là, n'existe pas. Donc voilà, c'est pas choquant. C'est peut-être un peu décevant, oui, qu'on n'ait pas un peu plus de concurrence et qu'on le voit jouer tous les matchs. Je veux dire, qui commence les matchs en plus sur cette période-là où t'as pas vraiment de concurrence et que lui est encore à un bon niveau et se bat quand même encore pour l'équipe. Hein. Ça se voit qu'il a. Même si on sent que techniquement et dans son timing, certaines fois, on sent que pour moi, il n'est pas exactement dans le même rythme que ses partenaires, mais il a de l'envie et on va essayer de lui rendre ça. Mais globalement, il joue quand même beaucoup pour les matchs qu'il a produits et pour son niveau actuel qui reste, il ne faut pas se mentir, voilà, il est quand même un bien moins bon niveau qu'il y a quelques années et il joue aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc c'est, ouais. on a beaucoup parlé de son cas en Arabie Saoudite. Donc voilà. Ça ne me gêne plus qu'il soit là. Maintenant, ça me gêne un peu qu'il n'y ait pas de concurrence. Quoi.
Ouais, il n'y a pas de concurrence parce que, bah, encore une fois, c'est le point négatif de Roberto Martinez et on peut en parler aussi. C'est que, bah, ça, on l'a déjà dit maintes et maintes fois, on ne va pas se répéter encore. Ce qui privilégie les statuts et c'est le gros problème de Roberto Martinez et c'est ce qui a mené à sa perte en Belgique. Et c'est vrai que dans un monde normal, Diogo Jota, par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'il montre aussi à Liverpool à ce poste de numéro 9, il mériterait quand même d'avoir beaucoup plus de temps de jeu à ce poste et non pas en. Même s'il avait été très bon contre le Luxembourg, je crois, dans ce poste de demi-ailier, demi-espace droit, ailier intérieur droit, où il avait été très, très. Gauche, pardon, il avait été très bon. Donc, mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que même Gonzalo Ramos, hein, qui n'est pas bon du tout avec le PSG,
en sélection, répond
toujours présent. Et il a finalement. Bon, ces derniers temps, ça va sur septembre et sur octobre et novembre, pardon, il a quand même pas mal de temps de jeu, donc heureusement, mais il n'y a pas une si grande concurrence que ça, alors que finalement, il pourrait mettre en place une concurrence, et malheureusement, tant que Ronaldo sera là, il n'y aura pas de concurrence, il n'y aura pas de méritocratie, comme on dit. Donc voilà. Si on peut souligner un joueur, bien évidemment, je pense qu'on a le même Mathieu, c'est Bruno Fernandes qui a mis son costume, et depuis un an, c'est le véritable meneur de jeu, le véritable patron de cette sélection. C'est sa sélection, c'est l'homme le plus décisif, c'est lui qui fait le jeu, c'est lui qui marque les buts, c'est lui qui est tout simplement indispensable aujourd'hui. Alors tant mieux, parce qu'on a énormément descendu ici, et à juste titre, je pense qu'il avait été très mauvais pendant 3-4 ans, où il ne répondait pas à nos attentes. Et là, je pense qu'il a pris le leadership, il a pris la sélection en main. Et quand il est comme ça, on l'a déjà dit encore une fois, c'est quand même assez exceptionnel.
Oh bah je reprends les mots de Daniel, hein, Bruno Fernandes, la patrie s'excuse, mais à juste titre, tant il a été immonde auparavant. Je pense qu'on est tous d'accord là, on est tous d'accord là-dessus, mais ça fait plaisir, enfin, ça fait plaisir dans le sens où au moins on aura quand même vu à un moment dans sa carrière le Bruno Fernandes en club, on l'aura quand même un peu vu, on aura eu enfin un peu tout ce qu'on attendait en sélection. Et alors, il y a encore un euro, parce que déjà la Coupe du Monde, c'était. On voyait certaines prémices, même s'il était pour moi pas aussi bon que maintenant, mais on sentait déjà certaines prémices et un leadership retrouvé, ce qui est assez paradoxal parce qu'actuellement il est moins bon en club. Après, c'est vrai que collectivement c'est très compliqué à United et c'est pas que sa faute, hein, mais ça marche beaucoup mieux ensuite pour lui en sélection, ce qui est assez paradoxal. Mais tant mieux pour nous, parce qu'on n'est pas supporters de United. Et pour la sélection, bah oui, c'est plaisant, mais c'est vrai que, encore une fois, j'ai l'impression que quand l'un est très bon, d'autres, et je pense bien évidemment à Bernardo Silva, baissent un petit peu en rendement, baissent un peu en influence, et c'est vrai que ça reste un mixte et un équilibre à trouver qui est difficile. Voilà, mais pour revenir à Bruno, très content, très, très content de voir qu'on voit ce qu'il est capable de faire. Et pour moi, voilà, il fait partie de ce lot de joueurs, plus que Bernardo finalement. Qui sont pour moi sur une grande compétition des joueurs qui, quand tu seras en difficulté, et je pense l'autre c'est Raphaël Léao, où tu peux être en difficulté, ou en tout cas tu peux affronter des matchs qui. Ouais, tu peux être en difficulté dans le sens où tu vas voir des matchs que tu n'auras pas vu lors de cette phase de qualification, parce que tu vas peut-être avoir un peu moins le ballon, parce que tu vas avoir une équipe qui va te presser un petit peu plus, parce que tu vas peut-être avoir un peu moins d'occasion. Et tu auras peut-être moins aussi ce côté, bah, j'ai le ballon et je suis très souvent dans le camp adverse. Et finalement, le ballon est toujours près de la surface et du but adverse. Et donc, à un moment, ça va bien finir par rentrer. Là, tu auras un peu moins ça. Et tu auras un peu besoin de cette qualité créative, cette capacité à créer des choses. Alors, c'est des joueurs qui créent des choses très différentes, mais qui, globalement, l'un par sa capacité à transporter le ballon et à dribbler, et l'autre par, selon moi, sa capacité, quand il approche de la surface, à être extrêmement décisif, extrêmement précis, que ce soit dans la frappe ou dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, qui font que c'est des joueurs qui peuvent vraiment créer la différence dans des moments qui pourraient être un petit peu compliqués dans une grande compétition. Et c'est pour ça que j'espère, que je croise les doigts pour que eux, parmi d'autres, hein, mais que eux soient surtout à un excellent niveau dans des potentielles rencontres qui sont peut-être un peu plus compliquées, ou avec des scénarios de match qui sont un peu plus différents que ce qu'on a vu depuis le début de l'ère Martinez.
Est-ce que pour toi, il y a un 11 quand même qui se dégage, pareil, pour une fois? Vraiment un 11 type qui se dégage, et avec quand même des bonnes certitudes pour cette compétition qui va arriver très vite.
Je vois quand même, je ne sais pas s'il y en a 11, mais je te dirais qu'il y a Diogo Costa, Rubén Dias. Je pense qu'Antonio Silva va avoir une petite longueur
Il y en a
d'avance sur
13-14 quand même qui sont quand même, qui va, ça va tourner autour de
Alors,
ça.
t'en as 13-14 sûrs qui tournent autour. Type, voilà, moi je pense qu'Antonio Silva va commencer à avoir un petit peu d'avance sur Pep, parce que Pep a des difficultés physiques depuis le début de la saison, on joue pas assez. J'ai du mal, même si il sort une deuxième partie de saison cohérente, à le voir titulaire à l'Euro, dans le sens où voilà, ça commence à être un peu compliqué, on sent que ça
Ce
commence
goal,
un
ça va
peu
être entre Danilo et Ignacio, je pense, tu vois,
Ouais, je me dis même que tu peux avoir dans les moments avec ballon un Palinha en troisième centrale, c'est pas impossible. Je pense que Palinha partira aussi titulaire. Après, tu as du Bernardo, tu as du Bruno Fernandes. Je pense que Rafael Leao sera titulaire malgré tout. T'as du Ronaldo, tu as du Cancelo. Donc, tu as encore, voilà, tu as peut-être le poste d'arrière gauche, savoir si tu auras Cancelo, si tu auras vraiment un Nuno Mendes ou un Rafael Guerreiro, ou si tu auras un troisième central et un Rafael Leao projeté sur le couloir. Donc, tu as quelques petites interrogations à ce poste-là et comment ça va s'agencer un peu au niveau de ta construction. Et oui, tu peux aussi avoir un fait. Et après, tu as des joueurs qui sont très très proches, hein, Félix, bien sûr, Diogo Jota. qui peuvent prétendre à ce 11. Donc,
on a 7-8 comme leur passe bien garantie. Après, ça va être
vraiment en fonction
de la forme du moment, du dispositif que tu veux utiliser, des profils que tu veux utiliser, de l'adversaire aussi.
L'adversaire, bien sûr.
Voilà, donc on a 7-8, enfin 8 qui ont leur place. Après, ça va tourner. Et c'est ce qu'on attend d'une grosse équipe. Donc, c'est très bien. Et, encore une fois, on prend le parallèle avec les autres compétitions où tu avais ce 4-4-2, mais tu ne savais pas trop comment le modéliser et au final, ça ne correspondait pas du tout à tes qualités, etc., à les joueurs dont tu avais sous la main. Là, même s'il n'y a pas de 11 types qui se dégagent, tu as une idée de ce qui va se passer et tu sais que les joueurs vont évoluer à leur meilleur poste. Et ça c'est une bonne chose et ça fait plaisir à voir quand même de voir qu'on a enfin un sélectionneur qui est un peu plus comme dans le football moderne, qui a des idées bien plus récentes que pouvait avoir Fernando Santos.
Oui, bah, tu sens qu'il est au fait du football d'aujourd'hui. Après, c'est un entraîneur vraiment du mérite sur cette phase de qualification. Hein. Je pense qu'Omar Tomatides pourrait encore être entraîneur d'une équipe, d'un club qui serait à peu près dominant dans son championnat. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on est sur un tiers d'un championnat, 10 journées à peu près, où tu étais ultra favori, tu as montré ton favoritisme, et c'est vrai que tu l'as montré avec ballon, dans le sens, j'ai le ballon très régulièrement dans le camp adverse, je réagis très bien à la perte. Si le premier rideau est un peu dépassé, j'ai des centraux qui sont habitués à défendre ce genre d'actions et qui sont assez sereins pour défendre la profondeur ensuite et défendre les espaces importants qui sont dans leur dos. Donc il pourrait être entraîneur de record, je pense, d'un bon club. Ce serait, par exemple, pour le Sporting, ce serait une bonne idée s'ils veulent rester dans la même lignée qu'Amorim et qu'ils veulent un petit peu plus de fluidité positionnelle, vu ce que nous a montré Roberto Martinez sur ces dernières rencontres. Ça pourrait être pas mal. Mais oui, on est sur un entraîneur qu'on sent a quand même beaucoup plus de visibilité d'un point de vue de ce qu'il veut mettre en place en termes de jeu que ce qu'on a eu depuis très très longtemps.
Ouais, c'est clair. Et après le seul problème de Roberto Martinez, et ça c'est quelque chose quand même qu'on signe aussi assez souvent, c'est le fait qu'il commence toujours très bien ses mandats. Ça, je me rappelle encore de son Swansea, de son Wigan, où Wigan gagne la FA Cup contre Manchester City. Swansea il monte en première division. Enfin, c'est vraiment toujours ses premières années sont excellentes. En Belgique, il les emmène en demi-finale de la Coupe du Monde. Everton, je me rappelle de son Everton, je crois qu'il finit top 4 sa première année où il est trop fin. Son Everton est vraiment très très fort. Et après, tout s'écroule parce que je pense qu'il a du mal à se réinventer, il a peut-être du mal à faire confiance à d'autres personnes qui arrivent. Enfin, c'est vraiment un entraîneur qui... et c'est pour ça, c'est ma plus grosse peur. Je suis persuadé, encore une fois, il n'y a pas de certitude dans le football, mais je suis quasi sûr qu'on montrera un bon visage. Enfin, j'espère, mais je pense qu'on va montrer un très bon visage. Mais j'ai peur pour la suite, quoi. J'ai peur qu'au final, étant donné qu'on va montrer un bon visage, il va dire, ouais, c'est avec ce groupe-là que je vais aller jusqu'au bout. Il va aller avec ce groupe en 2026, 2030, ça se trouve. Et au final, ce groupe sera vieillissant, ne répondra plus aux mêmes attentes, etc. Et c'est ça, c'est le problème de Roberto Martinez, c'est qu'une fois là, son groupe qui est construit, etc., ça marche la première année, et ensuite, ça s'essouffle. Et ça, c'est du Roberto Martinez tout craché. Donc, qu'est-ce que ça va changer avec nous, je ne sais pas, mais c'est ma plus grosse peur, en tout cas.
Ouais. Moi, ce qui me rassure, tu vois, c'est que je me dis, j'ai quand même du mal à avoir Ronaldo faire plus que l'Euro 2024. On ne sait jamais, hein, mais j'aurais quand même beaucoup de mal à l'accepter quand même. Et après, c'est vrai qu'à part Pep, tu as des profils de joueurs qui sont pas encore totalement vieillissants. Dans le sens, Bernardo n'a que 30 ans et finalement, ça va être l'un des plus vieux, enfin peut-être 94. Donc, il va fêter ses 30 ans l'année prochaine, donc 32 ans en 2026. Globalement, ce sera peut-être le plus vieux du groupe si Ronaldo et Pep tirent leur révérence en 2024.
Non, donc, t'as Danilo encore?
Ouais, t'as Danilo, mais c'est même génération à peu près. Donc, ouais, tu vas avoir ces trentenaires-là. Je me dis que pour 2026, ça peut encore tenir. Tu vois. Après, si pour au-delà, on verra. Mais bon, en 2024, déjà, comme tu l'as dit, il faut montrer un bon visage, il faut faire une belle campagne, il faut montrer de belles choses et chaque chose en son temps.
On demande s'il n'y a pas d'invité surprise pour vous, style Sanchez 2016, ou la surprise sera Neves si on le considère toujours comme surprise. Pour moi, c'est compliqué parce que, encore une fois, dans cette logique de Roberto Martinez, où vraiment Roberto Martinez a une logique de club, en fait. Il a une logique de club où il veut construire vraiment un groupe, un effectif qui se connaît. Et ça, au début, j'étais assez réticent parce que pour moi, la sélection, c'est vraiment. Ça se joue à la méritocratie, c'est vraiment tu mérites d'y aller, tu y vas, et peu importe si tu es un cadre ou pas. Mais au final, avec ses explications, etc., quand il nous parle vraiment qu'il veut construire vraiment un effectif solide, un vestiaire qui se connaît avec des dynamiques de jeu qui se répètent, etc., des joueurs qui jouent ensemble souvent, J'ai pu comprendre ce qu'il voulait et j'ai pu lui donner, je pense qu'il a raison finalement. Et je vois pas, enfin, si vraiment, je sais pas moi, s'il y a une blessure, voilà, s'il y a une blessure, je sais pas si Pedro Neto se blesse, Bruma peut être la surprise. Si Bruma se blesse et que Francisco Conceição commence à jouer aussi régulièrement et être bon, ça peut être ce genre de surprise. Sinon, si tout le monde est apte, si tout le monde est apte et qu'il reste au même niveau, enfin, même s'il y a une méforme de niveau, pour moi, il n'y aura pas de surprise. Pour moi, il n'y aura pas de surprise parce qu'il a son groupe. Il a ses 20, déjà, il a ses 26-27 joueurs. Je ne vois pas un 28e arriver. Et sachant qu'il pourra faire un groupe que de 23 joueurs, je ne vois pas une surprise de dernière minute comme ça, personnellement. Et pour moi, Neves n'est qu'une surprise, étant donné qu'il est déjà convoqué depuis deux rassemblements. Neves, je ne sais même pas s'il ira en sélection à partir du moment où il. Pour moi, ça va se jouer entre les deux Neves, entre Ruben Neves et João Neves. Donc, j'espère qu'il fera le bon choix. Mais personnellement, je ne vois pas de dernière surprise comme ça s'ajouter.
Ouais,
Et
surtout
toi?
qu'on est très très loin de la liste de juin 2024.
En plus, ouais.
Mais oui, João Neves, pour moi, ce serait une surprise aussi, parce que pour moi, il est un peu dans les 24, 25, 26e aujourd'hui, donc t'en auras que 23, et t'en as deux, malheureusement, selon moi, s'il joue en Europe, encore pour Ruben Neves, même s'il joue en Europe, je ne le voudrais pas. Mais un Otavio aujourd'hui, plus Ruben Neves, prennent des places au milieu de terrain. Et je veux dire, s'ils sont appelés maintenant, alors que tu as 26 noms et qu'ils jouent en Arabie Saoudite, j'ai du mal à les voir en dehors de la liste. Donc pour moi, même João Neves dans 8 mois sera encore une surprise. Bon, ça dépendra aussi de sa fin de saison avec Benfica. Ici, clairement, il s'impose comme un joueur qui doit absolument y aller. Après, il a les faveurs de Roberto Martinez aussi, hein, qui je trouve l'apprécie beaucoup, à juste titre, hein, même si on l'avait trouvé que c'était un petit peu tôt le mois dernier avec l'équipe. Mais non, non, sinon en termes de surprise, non, peut-être, enfin, là, vite fait, je me dis, est-ce qu'un Thiago Diallo, s'il revient à un très très bon niveau, peut gêner un peu la hiérarchie des centraux? Je sors ça un peu du chapeau. Je sais pas, c'est vrai que j'ai un peu de doute sur le fait de voir Roberto Martinez vraiment chambouler complètement
Oui, je pense pas.
sa liste. Hein, c'est un peu le problème qu'on a avec lui. Hein, c'est voilà, c'est d'avoir un peu créé cette sensation de groupe un peu fermé. Et c'est surtout, je pense, deux joueurs qui, voilà, comme on l'a dit, qui représentent ça, qui sont Ruben Neves et Otavio. Et après, d'autres se greffent un peu autour. Mais dans une liste de 23, bien sûr qu'il reste du temps, qu'en football, ça peut aller très vite, c'est un peu un cliché, mais ça peut aller très vite. Et si on m'aurait dit que João Neves serait en sélection aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas forcément cru il y a un an, donc ça peut aller vite. Donc voilà, c'est un peu compliqué de se projeter maintenant, et il y a quand même beaucoup de bons profils au Portugal à l'heure actuelle, sans avoir besoin forcément d'une surprise en 2024.
Ok, moi je crois qu'on était complet. Il y a une question, je viens de l'avoir. Si tu n'as pas vu le France, le Portugal, Allemagne à l'Euro 2000, Mathieu,
Ah
c'est
oui,
pas,
c'était.
t'étais encore trop
Ben non, Flavio, j'avais 3 ans. Donc,
jeune.
pour faire de la promo pour un podcast qu'on a fait il y a 3 ans
Exactement.
d'ailleurs, sur l'Euro 2000, l'Euro 2000, on avait revu tous les matchs, c'était lors du
Ouais,
Covid.
c'est
Et
beau.
on avait bien évidemment parlé de ce Portugal-Allemagne et ce triplé de Sergio Conceição, du knockout qu'il a reçu sur l'un des deux, sur le deuxième, sur son doublé, je crois, en première mi-temps. Et il y a une très jolie image de lui. Mais non, non, malheureusement, mes premiers souvenirs avec la sélection remontent à 2006. Pas les plus mauvais, mais depuis, on n'a pas non plus connu grand-chose. Hein. À part
C'est clair.
2016,
Ouais,
mais
non,
à la Coupe du Monde, en tout cas, on n'a pas connu grand-chose depuis 2006.
si vous êtes un peu nostalgique, je vous conseille ce podcast. On s'est régalé, franchement, je me suis régalé à le faire et à regarder les matchs parce que c'était à l'époque où, quand même, on avait une grosse, grosse sélection et on jouait très, très bien au football. D'où un peu notre nostalgie d'aujourd'hui, même si, bon, voilà, ça va quand même un petit peu mieux qu'il y a un an tout pile.
C'est ça.
Mathieu, je pense qu'on a été complet. Est-ce que tu veux quelque chose d'autre à ajouter? Si les auditeurs veulent poser encore des questions, c'est maintenant. En tout cas,
Ouais.
merci pour vos questions, merci pour votre participation, ça fait plaisir, on est là pour ça. Donc, voilà, Mathieu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant de passer aux fameuses mentions spéciales?
Non, non, je pense qu'on a été complet.
D'accord, bah, je vais te laisser faire une mention spéciale si tu en as une.
T'en as pas une? Attends, faut que je cherche
Moi j'en
un
ai une,
peu.
moi j'en ai une, c'est
Ah,
notre
tu as
ami Rui
parlé de
Georges.
2007. Ah, tu as parlé de Rui Georges. Bon,
Ouais, tu pensais que j'en ai pas de quoi?
dès 2007.
Ah putain, je pouvais aussi, ouais. Je pouvais aussi, mais ouais, non,
Ah, faut
bah je vais
choisir.
faire la parallèle, de toute façon, je ferai la parallèle. Mais notre ami Rui Georges qui a réussi à s'incliner en Grèce, des buts à 1, alors une Grèce qu'on avait battue assez facilement à domicile. Mais voilà, son délire national, tu sentais que les garçons n'avaient pas envie. Enfin, c'est la première fois que je vois une hymne nationale aussi moribonde. sais, d'habitude, les Portugais aiment chanter l'hymne, où je vois à la fin, ils s'enjaillent tous et tout. Et là, non, c'était mode, je crois qu'ils avaient la flemme, c'était peut-être l'horaire qui... Parce qu'on a joué à 14h comme en Grèce, c'était assez fou quand même. Donc, mais non, match catastrophique. Alors, perdre, c'est quelque chose qui arrive, hein. C'est comme ça, on ne peut pas tout le temps gagner au football. Mais faire une prestation de cette qualité quand tu as un effectif comme ça, c'est assez humiliant et honteux. Et c'est ce qu'on répète depuis maintenant plusieurs années. Alors, il fait 13 ans qu'il est là, 13 ans qu'il n'a rien gagné. On ne sait pas pourquoi il est encore là, mais il est là. Il est là et il nous pond voilà, il nous fait ce genre de prestations. J'oublierai jamais qu'à cause de lui, on est passé à côté de 3-4 euros alors qu'on avait des générations assez bonnes et il nous a quand même réussi à nous faire en sorte qu'on ne se qualifie pas pour l'euro. Donc voilà, c'est assez humiliant. Et bah, du coup, bah, heureusement qu'il y a eu les U17, la génération 2007, qui nous a donné un peu de gaieté aussi pour cette fédération qui. Grosse génération avec des ailiers qui percutent, qui dribblent, qui vont de l'avant, qui sont là essentiellement pour humilier leur adversaire et ça fait plaisir parce que c'est mon football en tout cas, c'est ce que j'aime et ça fait plaisir de retrouver un peu notre identité. Je parle bien de Kenda et de Cardozo Varela, donc voilà, pareil, c'était des sélections assez faibles, mais en tout cas, on en a montré un beau visage. Donc il y a le dernier match demain contre la République tchèque à 16h30 pour la première place. Mais cette génération 2007 est quand même assez folle et c'est l'une de nos meilleures générations. Et on espère qu'on se qualifiera pour l'Euro 17 et aller la gagner comme en 2016 et comme, je ne sais plus, en 88, je crois. Donc ça ferait une troisième fois qu'on la gagne si on la gagne. Donc voilà, on espère ça. Mais en tout cas, très très bonne génération 2007. Et oui, Georges, si tu peux partir avant qu'il soit trop tard, je t'en prie. Attends.
Attends.
Oui,
Non,
c'était lui
non,
pour
mais.
l'Euro 2004, c'était lui déjà qui était là pour la finale.
Oui. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais que là, c'est. Enfin, moi, je trouve quand même que l'Euro de cette année est un peu raté quand même. Hein. Enfin, là, tu te fais éliminer par l'Angleterre dans l'anonymat total. Hein.
C'est clair.
Alors, c'est vrai qu'il y a 2 ans, il fait finale. 2015, il fait finale. Donc, allez. Il n'a pas gagné, mais il est. Encore, je trouve que 2021, c'est un petit miracle d'aller en finale.
Exact. Marseille
Mais.
nous élimine contre la Pologne en barrage. Enfin, il y a des trucs.
Ouais, 2018, ouais, c'est la Pologne. Donc, ce que je suis un peu étonné, enfin, étonné, oui et non, mais je me suis dit, ils ont eu le courage de sortir Santos enfin et de, entre guillemets, de faire d'un choix un peu particulier, ou en tout cas un peu différent avec Martinez. J'aurais pu essayer avec la sélection Espoir, parce que l'Euro de cette année était un Euro raté, t'as un Euro où tu te fais. Alors que t'avais quand même, à partir de la génération 2000, quand même, avec le Portugal, enfin, je sais pas si on se rend compte, donc t'aurais quand même pu largement mieux faire.
Ouais.
Et tu te fais. Et encore une fois, on le dit souvent, mais c'est aussi la façon dont tu te fais éliminer. Tu peux te faire éliminer en quart par l'Angleterre, qui est une des meilleures générations et qui était, avec l'Espagne, de très loin, l'une des meilleures, de toutes tes meilleures équipes de cette compétition. Mais tu dois faire mieux d'un point de vue de l'image que tu rends. C'est absolument pas le cas face à l'Angleterre lors de ce match. Donc, voilà, j'ai du mal à comprendre comment quoi, au bout de 13 ans, tu peux pas comprendre qu'il y a un peu de lassitude et qu'il faut peut-être changer les choses pour voilà, insuffler quelque chose de nouveau pour cette sélection espoir qui est, encore une fois, pas hyper intéressante alors que le talent il est quand même assez large. Et pour les 2007, oui, extraordinaire génération. Alors là. Même si, que ce soit à Braga, que ce soit partout. C'est une seule génération vraiment, enfin, que j'ai personnellement qu'on a pu voir un peu en 2015, mais assez facilement en fait. Parce que tu as des matchs qui sont passés à la télé, enfin à la télé, sur la télé du Sporting Club de Braga il y a l'année dernière, avec les 15, quand ils étaient en U15. Donc, génération qu'on a pu voir assez tôt. Mais j'avoue que avoir autant de talent, c'est assez flippant. Surtout que si tu mets des 2008 avec Cardozo Varela tout de suite, bon, tu te fais plus
Je
chier.
pense
Donc,
que c'est même meilleur que 99.
ouais,
Ça
je
fait une grosse
pense.
impression que 99.
Talent individu, ouais, surtout la quantité en fait. Et finalement, tu as des talents qui se répartissent un peu
En
sur tous les clubs.
99, tu n'avais aucun qui était projeté première. Là, tu as Kenda qui est déjà dans le groupe de l'équipe première. Tu as Alphonso Patrin qui joue déjà avec U19 en Youth League avec Braga. Tu as Rodrigo Moura qui joue déjà en équipe B de Porto. Et il n'y en avait aucun en 99. Tu n'en avais aucun qui était aussi proche de.
Un Edgar Motta qui s'est déjà entraîné avec l'équipe première de Braga.
C'est ça. Donc,
Ouais, donc non, c'est vrai que. Bon, après,
Ouais.
ça sert un peu avec l'air du temps. Aujourd'hui, les jeunes sont. On les met de plus en plus vite, même au Portugal. Alors après, on pourrait faire mieux, mais même tu vois, sur certains entraînements, les gars arrivent quand même assez vite dans les entraînements des équipes B, des équipes premières. Donc ça, c'est... je pense que voilà, dès l'année prochaine, tu en auras beaucoup qui seront déjà en Ligue 3, jouant en équipe B avec leur club. Donc vraiment de très 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 gros, de très très gros talents. Petit bémol, je trouve que Edgar Mota n'a pas été convoqué en premier lieu dans cette génération, et ça, je n'ai pas aimé. Et je n'ai pas aimé la non-convocation de Thomas Müller aussi. Voilà.
Ah, c'est compliqué là, pour le coup.
La concurrence, il y a des bandes de fin, je suis d'accord, mais je... Ouais, autant, ouais. Il y a deux ans, en U15, je trouvais que c'était un garçon qui avait...
C'est vrai qu'il est très fort.
Qui marquait des buts, mais qui, dans le jeu, avait beaucoup de difficultés, et sur le début de saison... Bah pour dire voilà, que les 17 de Braga, donc les 2007, sont à 9 victoires ou 10 victoires et un seul match nul. Un match nul face à Porto, où on mérite absolument pas de faire match nul. On écrase Porto sur ce match-là. Donc, on a une sacrée génération ici au club. Et on avait quand même 4 convoqués, mais au rythme où ça va, et tu vois, Edgar Mota ne plus être convoqué tout de suite, ça va partir sur au mois de mars et mois de juin, avec seulement 2 joueurs. Ça va m'énerver. Donc,
t'as pas de mention spéciale du coup?
Ah, c'était 2007, donc je prends les tiennes et on complète.
Si on a une question, une idée, si Martinez venait un jour à partir, oula, ça fait même pas un an qu'il est là, donc on a pas réfléchi à ça. Je pense que malheureusement, il va tout dépendre de ce qu'il fera à l'Euro, mais moi-même, s'il fait un bon Euro, je veux qu'il parte, parce que pour avoir suivi un peu le personnage et l'entraîneur, je sais qu'après ces premières années, sont compliquées. Ensuite, ça devient compliqué, donc, mais bon, je pense qu'il va rester au moins jusqu'en 2026, et s'il vient à faire un très bon truc, il y a moyen qu'on le prenne jusqu'en 2030, connaissant notre fédération. Après, on va avoir normalement un nouveau président qui va arriver en avril 2024, je crois. Ouais. Donc peut-être que ça changera, mais en tout cas, je ne sais pas, moi j'ai pas de nom en tête. Alors j'ai toujours rêvé de voir Mourinho hein, à la tête de la sélection, ça a été longtemps mon plus grand rêve, mais maintenant je me dis que je vois jouer ses équipes, ça devient quand même de plus en plus dur.
Tu retournes en arrière, oui.
Ouais, et je me dis qu'avec ouais, tu fais quand même un pas en arrière, ouais, clairement avec les générations que tu as, c'est quand même tu retournes à un football quand même qui est un peu plus ancien, alors que tu as passé ce cap avec Roberto Martinez avec un football un peu plus moderne. Donc voilà, après il faudrait, je pense, trouver un sélectionneur qui s'adapte au nouveau football. Malheureusement, c'est pas le cas de Mourinho, même si j'aimerais, hein, c'est pour tout ce qu'il représente pour le potentiel, etc. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas d'idée là comme ça qui est en tête. Alors t'as pas l'Enfonseca, mais Fonseca a dit comme quoi il préférait limite de prendre la sélection ukrainienne que le Portugal, donc je ne sais pas si c'est un rêve pour lui. Alors tu as Abel Ferreira, mais pareil, on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas si la sélection aujourd'hui est vraiment quelque chose qui intéresse les entraîneurs portugais, donc compliqué de sortir un nom quand il y a tout ça à prendre en compte.
Bah, je pense qu'il faut revenir au débat qu'on avait eu un peu l'année dernière. C'est vrai que les noms d'Abel Ferreira étaient revenus entre nous, hein, peut-être à la Fédé, on n'y était pas. Hein. Vu qu'on n'a pas pensé à Roberto Martinez et qu'ils ont pensé à Roberto Martinez. Donc, c'est vraiment qu'on était loin du compte. Hein. Mais d'un point de vue des entraîneurs portugais, en tout cas, oui, il y avait Los Castro, il y avait Conceição, qu'on estimait aussi pour. Mais après, c'est vrai que c'est des timings. Hein. C'est vrai qu'on estimait certains profils après la Coupe du Monde 2022 et après l'échec de Maroc. Et en plein milieu de saison aussi. Donc, il faut avoir ça en tête. Moi, je pense qu'il faut partir du principe que Roberto Martinez, s'il sort des poules à l'Euro 2024, on lui donne au moins la Coupe du Monde 2026. Et on part sur un cycle au moins de 4 ans, enfin 3 ans et demi avec lui. Voilà, parce que c'est vrai que ça reste un sélectionneur et ça reste peu de matchs, peu de rassemblements, peu de sessions d'entraînement. Et qu'il y aura toujours, je pense, de la part de la Fédération portugaise, en tout cas, certaines tolérances à ce niveau-là. Donc. Je pense que c'est compliqué de voir un successeur à Martinez, même si je peux comprendre que certains aient du mal avec le fait qu'il soit étranger et qu'il soit en plus espagnol. Je pense quand même lui laisser le temps. Hein. De toute façon, il l'a gagné. Hein. Il a gagné tous ses matchs depuis qu'il est là. Donc, je pense qu'il faut être un peu indulgent dans ce début de mandat tout de même avec lui.
Non, autant, c'est vrai qu'autant on pouvait être très pessimiste par rapport à ce qu'il a fait auparavant. Après, tu te poses un peu, tu te dis, bon, finalement, il a fait pas si du mauvais taf. Après, tu as forcément les listes qui arrivent, donc tu te dis, putain, il est relou, et tout ça, les agents de ça. Après, tu te dis, bon, il y a les résultats, il y a le contenu aussi qui est là. Il y a des matchs où vraiment on a pris un plaisir fou, on va pas se mentir. Donc, rien que ça, quand tu prends un peu tout ça en compte, tu te dis, vas-y, on lui laisse au moins l'euro. Bon, l'euro, c'est sûr. Et après, s'il fait un bon euro, tu laisses la Coupe du Monde, ce qui est plus que logique. Hein, mais c'est vrai que voilà, s'il faudra, en tout cas, qu'il réponde présent par exemple, des Ligues des Nations. Si dès la Ligue des Nations, on va affronter forcément des équipes un peu plus fortes. C'est si même, imaginons, on fait un mauvais euro et qu'on fait derrière une nouvelle Ligue des Nations, ça peut vite tourner au vinaigre aussi. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, on va lui laisser au moins l'euro Et en tout cas, il fait du très bon boulot là-dessus. Même au niveau, voilà, il chante l'hymne. Rien que ça, c'est quand même OK, espagnol, tout ça, c'est vrai que c'est déjà encaissé, mais bon, déjà, il fait l'effort d'intégration, il parle portugais, il chante l'hymne. Bon, quand il y a tout ça que tu prends en compte, tu te dis quand même qu'il mérite au moins, il mérite sa chance. Et voilà. Bon, bah, merci Mathieu.
Merci
Sur
Alex.
ce temps, d'1 heure, malgré voilà, 2, on a quand même tenu 1h10, avec peu de sujets, mais bon,
On aurait pu
c'est.
tenir encore longtemps. Hein.
Ouais, on aurait pu tenir encore plus longtemps, mais bon, il y a boulot demain. Il y a boulot demain.
Heureusement.
Bah, merci à vous, merci à Mathieu, merci à vous les gars d'être présents encore pour nous écouter à cette heure tardive, en ce lundi 2 novembre, pluvieux. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un live encore. Voilà, il y a la fameuse Liga Bwin qui revient. Donc on s'était
Non.
quitté avec ce match exceptionnel entre Benfica Sporting.
Et sauf que c'est la coupe le week-end
La
prochain,
coupe.
Alex. Je suis
Oui, c'est la
désolé.
coupe. Ouais, c'est la coupe. Je me suis pris une feinte. C'est la
Le
coupe.
fameux week-end de coupe après
C'est
la
le fameux
trêve.
week-end de coupe. Donc il faudra trouver des sujets pour la semaine prochaine. Mais bon, on en a déjà parlé
Bon, on
en
peut
off.
parler de la révolution à Porto, hein.
Voilà, on va parler de la révolution à Porto, de ce qui se passe. Donc,
Pardon.
voilà. On se retrouve bientôt et on vous souhaite à tous une bonne semaine. Portez-vous bien et ciao, ciao.
Bonsoir à tous. Ciao, ciao.